RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Baptiste Madinier.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, des référendums en cours dans 4 régions de l'Ukraine pour rejoindre la Russie. Un simulacre de scrutin, mais aussi une escalade diplomatique, nous l'entendrons. Dans le reste de l'actualité ce soir, le début d'un week-end sous tension en Italie avec une extrême droite aux portes du pouvoir. La reprise des marches pour le climat aujourd'hui en France après une saison en enfer. Et puis les adieux d'un roi ce soir en tennis. Roger Federer va jouer son dernier match aux côtés de son plus grand rival, Rafael Nadal. Voulez-vous faire sécession de l'Ukraine, créer des États indépendants et faire partie de la Russie? C'est la question à laquelle doivent répondre depuis ce matin les habitants de 4 régions de l'Ukraine, partiellement ou totalement occupées par l'armée russe. Moscou a lancé aujourd'hui ses référendums d'annexion à la Russie. Sont concernées donc les régions de Lugansk, de Donetsk, de Kherson ou encore une partie de la région de Zaporijjia, avec bien sûr un fort enjeu diplomatique, Grégoire Gindre.
Les votes ont démarré ce matin avec peu de bureaux ouverts. Selon les images des médias russes, il s'agit surtout d'un vote par porte-à-porte pour des raisons de sécurité. Les autorités pro-russes accusent Kiev de perturber le scrutin par des bombardements. Les électeurs votent donc dans des urnes mobiles, dans des halls ou dans des cours d'immeubles. Dans ces régions vidées des soutiens pro-ukrainiens, le résultat du référendum fait peu de doutes. Il s'agit surtout pour Moscou d'envoyer des garanties, selon Jean de Glignasti, ancien diplomate spécialiste de la région.
La conséquence, elle est très simple. C'est d'ailleurs un des objectifs de ce référendum et de ce rattachement à la Russie, c'est de donner à ces populations, ébranlées par les défaites russes, la garantie que les Russes ne les laisseront pas tomber. Parce que toutes ces populations ont très peur que si les Ukrainiens regagnent du terrain, eh bien il y ait une épuration, qu'il y ait des problèmes comme en ont tous les gens qui sont considérés comme collaborateurs à la fin de la guerre. La Russie leur donne la garantie que, étant intégrée au territoire russe, la Russie mobilisera tous ses moyens pour sauvegarder l'intégralité du territoire russe.
Ces référendums ont été annoncés dans l'urgence par Moscou après la vaste contre-offensive ukrainienne et Kiev revendique d'ailleurs aujourd'hui la prise de plusieurs localités dans la région de Donetsk. Avec ces référendums, la guerre va maintenant changer de dimension.
C'est une escalade en ce sens que Poutine brûle ses vaisseaux. Parce qu'une fois que ces territoires ont été rattachés à la Russie, il ne peut pas revenir en arrière. Et donc, il saute une capacité de négociation sur ces territoires.
L'Ukraine et la communauté internationale ont dénoncé un simulacre. Le vote pour ces référendums doit durer jusqu'à mardi prochain.
Et les autorités, merci beaucoup Grégoire Gindre. Les autorités ukrainiennes annoncent ce vendredi avoir exhumé 436 cadavres qui étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium au sud de la région de Kharkiv, ville reprise aux Russes il y a quelques jours. Parmi ces 436 corps, la plupart présentent des signes de mort violente et 30 présentent même des signes de torture. Des découvertes qui rejoignent les accusations des enquêteurs de l'ONU qui présentent leurs résultats de leur investigation aujourd'hui. Et qui parle bien de crimes de guerre commis en Ukraine, dans les régions de Kiev, de Tchernigiv, de Kharkiv ou encore de Soumy. L'immense majorité d'entre elles sont imputées aux forces russes. On parle notamment d'exécutions sommaires, de gorges tranchées, d'utilisation d'armes explosives à large rayon d'impact dans des zones civiles ou encore d'accusations de détention illégale, de torture ou encore de violences sexuelles. Au moins 77 migrants sont morts noyés au large de la Syrie après le naufrage de leur bateau parti du Liban. Ce pays devient de plus en plus un point de départ d'embarcations illégales de migrants depuis le déclenchement en 2019 d'une grave crise économique et financière. À l'appel des autorités, des milliers de personnes défilent aujourd'hui en Iran pour défendre le port du voile et dénoncer, je cite, les mercenaires qui depuis une semaine mènent une violente protestation contre le pouvoir. Manifestation déclenchée, je le rappelle, par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police pour port de vêtements inappropriés il y a une semaine. Ces tensions ont déjà fait au moins 17 morts. 50 millions d'Italiens appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives. Ils doivent élire les 200 sénateurs et 400 députés qui composeront le Parlement après la démission de Mario Draghi en juillet dernier. Et c'est la coalition droite-extrême droite ultra-conservatrice et portée par Giorgia Meloni qui est en passe de remporter ce scrutin. Une victoire qui poserait bien sûr des questions sur les relations diplomatiques de l'Italie en Europe, mais aussi à l'international. Écoutez la spécialiste de l'Italie, Ludmila Coney.
Le parti Fratelli d'Italia et Giorgia Meloni en particulier, ils marchent un petit peu d'une façon un peu ambiguë. D'un côté, ils essayent de rassurer en montrant leur européisme et leur attachement à l'OTAN. Et de l'autre côté, un certain nombre d'éléments contradictoires percent dans le discours, dans les faits et aussi dans les alliances au niveau national et international. Qu'est-ce qui va se passer au moment des élections si effectivement ce parti, avec cette coalition, gagnait et haut la main, comme on pense, ces élections, il serait d'un côté obligé de composer avec Bruxelles. Et en même temps, Giorgia Meloni et son parti sont très proches de Viktor Orban et du parti Vox en Espagne.
Voilà, en cas de victoire, Giorgia Meloni pourrait à 45 ans devenir la première femme à diriger le Parlement italien. En France, la situation politique est toujours aussi explosive pour la France insoumise après les aveux de violence conjugale de son ex-coordinateur Adrien Quatennens. Depuis ce matin, c'est le député Manuel Bompard qui est sous le coup des critiques après avoir déclaré, je cite, qu'une gifle n'est jamais acceptable mais qu'elle n'est pas légale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Voilà une séquence qui illustre bien l'impasse dans laquelle se trouvent les formations politiques quant à la réponse à apporter face aux affaires de violences sexistes et sexuelles. Un manque de cohérence et un flou dénoncé par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Cette association militante réclame la mise en place d'une vraie politique publique de lutte en la matière. Fiona Texer est la cofondatrice.
On pourrait étendre les pouvoirs de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est une haute autorité indépendante créée après l'affaire Cahuzac, puisqu'à l'époque, on considérait que la transparence financière était un vrai fléau et qu'il fallait traiter ce fléau qui touchait le monde politique en se dotant d'outils pour le combattre. Et depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'affaires en politique. Il y a eu Baupin, il y a eu DSK, il y a eu Hulot, Darmanin, Tron, etc. Aujourd'hui, Quatennens, Abad. Et il n'y a pas de réponse réelle. En fait, c'est comme si cette nouvelle question qui s'impose au monde politique, la question des violences sexuelles, elle ne mérite pas la même attention que la question de la transparence financière il y a une dizaine d'années.
Voilà, et l'Observatoire propose aussi de former députés, sénateurs et ministres sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Il propose aussi la levée systématique de l'immunité parlementaire en cas d'enquête pour des violences de ce type. 48 incendiaires présumés interpellés cet été selon la gendarmerie étaient marqués par un record de surface brûlée en France. Dans ce bilan provisoire, 12 personnes ont déjà été condamnées pour des peines allant jusqu'à 2 ans de prison, notamment pour un jeune homme déclaré coupable d'une série d'incendies en Gironde. Certains ont un profil psychologique plutôt faible et parfois des troubles mentaux, précise la gendarmerie. Il s'agit maintenant, avec des expertises médicales, de distinguer les pyromanes qui mettent le feu pour satisfaire une pulsion des incendiaires dont l'acte répond à un mobile précis. Et après cet été cataclysmique en France, justement, les marches pour le climat ont repris ce vendredi. Une trentaine d'activistes d'Attaque France et d'Extinction Rebellion ont envahi le terminal 1 de l'aéroport du Bourget cet après-midi pour dénoncer, je cite, la responsabilité des ultra-riches dans la crise climatique. Dans la rue aussi, les revendications sont très concrètes. Exemple tout de suite à Bordeaux avec Lucille, membre des jeunes écologistes locales.
Faire attention avec les entreprises par rapport à la lumière, enfin à l'énergie. On voit que peut-être cet hiver, on pourra pas se chauffer. On a la population de faire attention, alors que peut-être si on demandait aux entreprises de faire attention, si on régulait les jets privés des ultra-riches ou ce genre de choses, peut-être que les populations les plus précaires, la population, vont peut-être pas devoir sacrifier leur chauffage, couper le wifi le week-end, etc. Voilà. Les jeunes n'ont peut-être pas voté, mais peut-être qu'ils vont voir qu'ils ont quand même des engagements, qu'ils ont des choses à dire. Et peut-être pas en le mettant dans les urnes. Quoi. C'est juste notre avenir, on peut pas le laisser tomber. Parce que sinon, en fait, l'humanité, ça va être fini. Là, c'est aujourd'hui ou jamais.
Voilà, et on parlait d'éclairage. Justement, ce soir, à partir de 22h à Paris, l'Hôtel de Ville, la Tour Saint-Jacques, les 14 musées municipaux ou encore les mairies d'arrondissement cesseront d'être éclairés en raison de la crise énergétique. Une initiative suivie en région. Exemple, en Haute-Savoie, où 187 communes vont éteindre leur éclairage public. Et cette nuit fait figure de test avant le long hiver qui est attendu. Christian Depucet, maire d'Annemasse et président du pôle métropole du Genevois français.
La nuit, simplement, cette fameuse nuit est belle, sans éclairage. On va économiser à peu près 80 000 kWh, soit l'équivalent de consommation d'une trentaine de ménages, qu'ils soient suisses ou français, et c'est un fait important. Donc, il y a certes l'économie, Il y a certes la sobriété, il y a aussi l'acceptabilité par la population de ces temps où l'éclairage public n'est pas mis en place.
Des propos recueillis par Victorien Duchet. On finit ce journal avec un peu de sport. En tennis, dans moins d'une heure, va débuter un match pour l'histoire, un match de légende. Ce sera le dernier de l'immense carrière de Roger Federer. Le Suisse s'apprête à donner donc ses ultimes coups de raquette à Londres dans le cadre de la Laver Cup. Il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de ce match. Et Thomas Dulin, pour clore cette histoire en beauté et en symbole, eh bien Roger Federer sera associé pour ce match à son rival, son meilleur rival de toujours, l'Espagnol Rafael Nadal.
Même les meilleurs scénaristes n'auraient pas pu penser à un plus bel épilogue. Après s'être affronté pendant plus de 20 ans de part et d'autre du filet, les deux plus grands joueurs de l'histoire seront réunis ce soir pour la dernière de Federer. 42 titres du Grand Chelem sur la même partie de terrain, c'est plus de la moitié de l'ensemble des titres distribués au cours des deux dernières décennies. Rivaux sur les courts, après avoir disputé des matchs mythiques, 24 en finale de tournoi, Rafael Nadal et Roger Federer s'entendent plutôt bien en dehors.
So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet?
You know what? I'm going to come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation.
Des rires et de la complicité entre les deux hommes, il devrait y en avoir aussi sur le terrain ce soir. Ils ont chacun participé à forger la légende de l'autre, alors qu'ils soient rassemblés pour l'ultime match du Suisse paraît presque naturel. C'est en tout cas un pan entier de l'histoire du tennis qui va se tourner tout à l'heure et le nom de Roger Federer y restera gravé à jamais.
Voilà, Thomas Dulin, grand fan de Roger Federer, qui sera aussi au rendez-vous demain matin pour vous délivrer les premières informations dès 6h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Pascal Gauthier qui était à la technique ce soir et merci à tous pour votre écoute. Bonne soirée.